Tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et voilà qu'aujourd'hui encore nous puissions partager, nous retrouver autour de la parole de notre Seigneur. Et je vois qu'il y a des nouvelles personnes pour ce culte d'aujourd'hui et j'en suis très très réjoui. Voilà, donc c'est la suite de la semaine dernière. Et donc je profite de venir quelques dimanches successifs pour construire avec vous un message un peu plus complet, ce que j'appelle un message étude, hein, afin de vraiment, au lieu de résumer, mais de rentrer dans davantage de détails. Nous avons commencé la semaine dernière, donc les dons spirituels, hein, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais en tout cas, on s'était quitté sur cette certitude que nous avons tous reçu un don, chacune, chacun. Donc les questions c'était: l'avez-vous découvert? L'avez-vous vécu? L'avez-vous expérimenté? Et l'avez-vous mis en service, en œuvre? Avez-vous ressenti ces bienfaits sur les autres et sur vous-même? Il y a différentes façons de vivre les dons. Hein. Tout à l'heure, dans le premier chant, c'est « Et nous vivons les dons de son esprit hein. ». La foi, c'est quelque chose de vivant. Vivant pour soi et vivant aussi pour la communauté, pour le bien de la communauté. Je vous avais dit que nous lirions ensemble le chapitre 12 de 1 Corinthiens et c'est ce que nous allons faire. Pour ce qui concerne, donc c'est Paul qui écrit, pour ce qui concerne les dons spirituels, hein, donc le thème de nos rencontres, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ». Et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, l'Esprit de Dieu. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. Nous avons en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre. Il suffit de nous regarder, mais il est formé de plusieurs membres, aussi différents les uns des autres. Et là, il donne une illustration du corps physique. Et Paul dit, si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas pour autant du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant, il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de toi. Ou je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, eh bien, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré ou se réjouit, ben, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Ou le don de guérison ? Ou de parler en langue ? Interprètent-ils ? Et là, Paul dit « aspirez aux dons les meilleurs ». Et je vais encore vous montrer une voie par excellence, parce qu'il voilà, termine sur cette note de « dans tout cela, il nous faut l'amour pour vivre, pour le vivre, ce don, et pour le dispenser ». L'Église, le corps du Christ, dont nous faisons partie, nous tous différents les uns des autres, nous avons tous reçu un don pour nous édifier les uns les autres. Après avoir défini les dons spirituels, leur provenance, leur utilité, on a ouvert même une parenthèse la semaine dernière sur le parler en langue, parler dans les langues étrangères, comme il a été question lors de la Pentecôte. On va poursuivre notre étude sur la diversité des dons et sur leur classification. Donc nous avons lu qu'il y a diversité de dons comme il y a diversité de chrétiens. Un don n'est pas supérieur à un autre don, parce que mon don va honorer les autres et le don de l'autre va m'honorer. C'est pour ça que Jésus dit que nous sommes tous égaux devant lui. Nous sommes tous égaux. Nous n'avons pas à avoir de jalousie envers le don d'un autre. Je vois l'autre homme comme supérieur avec le don qu'il a, comme il me voit supérieur dans le don que j'ai. C'est une complémentarité. Les dons sont accordés, on le répète, pour l'édification des membres de cette Église. Voilà, cette Église-là, ici, réunie. Alors, pourquoi ces dons sont accordés à chaque membre pour l'Église? Premièrement, pour équiper l'Église dans ses ministères. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, « Vous donc, puisque vous aspirez si ardemment aux manifestations de l'Esprit, recherchez à posséder avant tout en abondance celle qui contribue à faire grandir l'Église dans la foi. » Éphésiens chapitre 4, verset 12, « Il a fait don de ses hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. En clair, imaginons que l'Église soit un édifice, un bâtiment, chacun apporte sa pierre à l'édifice. L'un va apporter des pierres, l'autre va apporter du bois, l'autre va apporter des portes, l'autre des fenêtres, l'autre la charpente, l'autre la tuile. Alors pourquoi encore ces dons ? Pour la croissance dans l'amour et l'unité. Éphésiens chapitre 4 verset 16. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Et puis encore un autre point, c'est pour la gloire de Dieu par sa parole que les dons sont accordés dans l'Église. 1 Pierre chapitre 4 verset 11, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Il n'y a pas de gloire à attacher au don que le Saint-Esprit nous a donné pour l'édification de l'Église. Il n'y a pas de gloire à en retirer. Il n'y a pas de gloire, de notoriété, parce que le don que vous a donné l'Esprit est pour l'édification de l'Église et uniquement est pour rendre gloire à Dieu. Puis les dons aussi sont pour l'entraide. 1 Corinthiens 12, 25, 26. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Ben, on ne détourne pas la tête. On souffre avec lui. Un membre se réjouit ? On ne détourne pas la tête. On va se réjouir avec lui. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce. Et la semaine dernière, nous avons expliqué un petit peu notre rôle de gérant, de faire fructifier le don pour l'édification de l'Église, pour le rayonnement de l'Église. Il n'y a pas de place pour la gloire personnelle. On ne s'enorgueillit pas du don que l'on a reçu. On rend gloire à Dieu pour cela. On rend grâce à Dieu pour cela, parce qu'on l'a reçu gratuitement. Le don que j'ai reçu, je ne l'ai pas acheté, je ne l'ai pas demandé, je ne l'ai surtout pas mérité. C'est Dieu qui me l'a accordé pour que l'Église croisse, pour que l'Église grandisse, pour que la parole de Dieu se répande et se vive. Hein ? Comme le chante tout à l'heure, encore une fois, et nous vivons les dons de son esprit, parce que les dons sont vivants. Dans la Bible, on peut relever un certain nombre de dons que l'on peut classifier et regrouper. Et vous allez voir, il y a tellement de richesses dans les dons de l'Esprit qu'une assemblée ne peut pas dire « il n'y a pas de dons chez nous » ou « on en a peu » ou « nous n'avons pas tel don ». Que chacun s'examine. Que chacun découvre le don. Nous avons lu 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10, je ne vais pas le relire, mais voilà, il dit voilà, par l'Esprit, certains donnaient un message de sagesse, à l'autre un message de connaissance, et ainsi de suite. Et dans Romains, chapitre 12, verset 6, et nous avons des dons qui diffèrent. Et heureusement d'ailleurs, je dirais, selon la grâce qui nous a été accordée, Eh bien, si quelqu'un a reçu le don de prophétie, ben, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si quelqu'un a reçu un don de service, eh bien, qu'il serve. Si quelqu'un a reçu un don d'enseigner, eh bien, qu'il l'enseigne. Si quelqu'un a reçu un don d'exhortation, ben, qu'il exhorte. Que celui qui donne le fasse aussi sans calcul. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui exerce la miséricorde le fasse avec joie. Et puis Éphésiens, hein, encore Éphésiens, chapitre 4, 11. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Parce que Dieu, quand il donne un don, il équipe la personne, le frère, la sœur. Il dit, bah, tiens, voilà, toi tu as reçu ça, maintenant tu te débrouilles. Non, il va donner les moyens également à cette personne de mettre en œuvre le don qu'il a reçu pour les autres. L'Église a besoin de vivre ses dons. L'Église doit rechercher l'existence de ses dons et les mettre en œuvre. Ça veut dire quoi l'épanouissement de l'Église ? Ça veut dire le bien-être dans l'Église, la plénitude, une foi vivante, une foi opérante. C'est pas uniquement dire, bon, ok, allez, c'est dimanche, il est l'heure, j'y vais. Ah, bonjour, c'était bien, au revoir. Là, il n'y a rien de vivant. Ça devient une triste habitude, je dirais. Non, est-ce que nous venons pour vivre quelque chose ? Est-ce que nous venons pour vivre quelque chose ? Si simplement se contenter d'écouter, ça ne sert à rien. Et Paul dit même, voilà, si vous avez, quel que soit le don que vous avez, si vous ne le faites pas par l'amour des autres, par l'amour d'une âme, ça ne sert à rien. Alors, il y a trois grandes catégories. Il y a les dons de parole, il y a les dons de service et les dons des signes. Et c'est ce que nous allons voir là, à partir un peu maintenant et jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je vous invite à venir la semaine prochaine pour écouter la suite et la fin. Et puis, je vous laisserai un petit cadeau. Alors, voyons aujourd'hui les dons de la parole. Donc, il est question de l'apôtre. Qu'est-ce que l'apôtre ? C'est un envoyé, un messager ou un délégué. Sa mission était très importante. Jésus a été appelé apôtre. C'est lui qui transmettait la parole. Hébreux chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, mes frères, vous qui appartenez à Dieu et qui l'a appelé à avoir part au bien céleste, fixez vos pensées sur Jésus, le messager et grand prêtre de la foi que nous reconnaissons comme vrai. Et puis il y en a aussi des connus, hein, qui étaient avec Jésus. Mais les 12 apôtres. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 14, les remparts de la cité avaient 12 assises et sur elles les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, des 12 apôtres de Jésus. Ils ont eu une importance très grande à l'époque. Et pourtant, regardez d'où ils venaient. Regardez d'où ils venaient. Est-ce qu'ils étaient tous équipés pour aller prêcher la parole ? Non, loin de là. Loin de là. Mais Jésus leur a dit, allez. Allez et ne vous occupez pas de ce que vous allez dire parce que moi, je ferai ma part. Et Dieu a fait sa part. Et la parole s'est propagée. Hein, par l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, vous connaissez la suite. Après, la parole de Dieu a pu se répandre dans les villes aux alentours et vers les païens dont nous faisons partie, hein, ou dont nous faisions partie. Bon, il y a aussi les faux apôtres, à laquelle il faut prêter attention. Apocalypse 2, verset 2, « Je sais tes œuvres, ton labeur et ta persévérance, et que tu ne peux tolérer les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. » La seule façon de savoir si un apôtre transmet bien le message de la parole de Dieu, c'est de vérifier ses dires au regard de la parole de Dieu. Je n'insisterai jamais autant en disant « Vérifiez ce que l'on vous dit. » Vous avez le droit et le devoir de vérifier ce que je vous dis cet après-midi. C'est de votre responsabilité aussi. Acte 13, verset 2, « Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, ah, il se manifeste, réservez-moi donc Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine. » Là, nous avons vu l'apôtre, il y a aussi le prophète. Le prophète, dans prophète, il y a prophétie, ou dans prophétie, il y a prophète. La prophétie est un don qui s'adresse directement à la vie de l'Église, à son cheminement, à son but, à sa direction. Celui qui prophétise parle aux hommes, il les édifie, il les exhorte, il les console. Donner une parole prophétique de ce qui va se passer, comme les prophéties dans la Bible, celles qui se sont déjà réalisées et celles qui vont se réaliser. Une prophétie est amenée à se réaliser. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 13. « Mais celui qui prophétise aide les autres à grandir dans la foi, les encourage et les réconforte. » La révélation biblique conclut avec un avertissement à celui qui ajouterait ou enlèverait quelques paroles que ce soit de la Sainte Écriture. Et notre recommandation que je ferai, c'est ne prenez jamais un verset seul hors de sa contexte pour essayer de lui faire dire quelque chose. Parce qu'on peut se tromper en donnant une explication sur un mot, une phrase tirée de son contexte. Lisez les contextes. La Bible ne se contredit jamais. Dieu ne peut pas dire blanc et noir en même temps. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 18, il y a cette déclaration. « Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre, la Bible. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. » Dans la Bible, rien n'est à ajouter et rien n'est à retirer. Il y a tout à l'intérieur. Le mot prophétie signifie aussi annonce de la parole de Dieu. Le discernement prophétique permet de mettre le doigt, par exemple, sur un péché caché d'une personne, ou également d'appliquer telle vérité de la Bible à une situation précise. Il y a aussi l'évangéliste, hein, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, celui qui proclame la bonne nouvelle pour la conversion des gens, pour les amener à la conversion. C'est celui qui proclame l'évangile. Il y a le pasteur, qui est considéré comme un berger, comme Jésus, pour diriger et prendre soin du troupeau, pour l'enseigner et le protéger, oui, des faux prophètes. Paul encourage les anciens d'Éphèse à paître leur troupeau. Il leur dit « Veillez donc sur vous-même, d'abord bien sûr, et sur tout le troupeau de l'Église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Acte 20, 28. Nous sommes précieux, nous, Église du Seigneur, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il veut le bien de son Église, il veut le meilleur pour son Église. Il veut que son Église soit vivante, qu'elle se réjouisse, qu'elle s'exhorte, qu'elle se reprenne, le tout avec amour. Et enfin, il y a l'enseignant, celui qui a reçu, et Jésus, Paul aux Romains dit que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne. Ben oui, parce que recevoir un don et ne pas le mettre en service, encore une fois, cela ne sert de rien. L'enseignant, c'est celui qui explique et interprète les doctrines bibliques, qui possède une bonne connaissance de la Bible, celui qui encourage et celui qui exhorte. Et qu'il le fasse avec joie. Comme le Saint-Esprit aide et encourage une personne ou un groupe, celui qui a une parole de sagesse, le conseiller spirituel, qui a un bon jugement sur les problèmes d'autrui. Un bon jugement, c'est une bonne analyse, ce n'est pas une bonne condamnation. Seul Dieu condamne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, que celui qui dirige le fasse avec sérieux, que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. Encore une fois, avec joie. Avec joie, avec amour, on ne peut pas envisager de recevoir un don et de le vivre dans la tristesse. C'est incompatible avec l'Esprit de Dieu, avec la pensée de Dieu d'un don. Un don est vivant, opérant et efficace. Dieu communique sa sagesse à ses proches, comme à Salomon. Salomon, la seule chose qu'il a demandé, c'est d'avoir la sagesse. Et on connaît la suite. Et nous pouvons même demander la sagesse, comme dans Jacques chapitre 1, verset 5. Seigneur, donne-moi déjà la sagesse. La prochaine fois, nous verrons ensemble les dons de service. On verra, je vous donne quelques exemples. L'assistance. L'hospitalité, très important, c'est un don aussi l'hospitalité. La libéralité, celui qui donne avec libéralité, c'est-à-dire avec joie, mais librement, sans compter, sans se dire j'ai 10, j'en garde 9, je t'en donne 1, et ainsi de suite. Ça, c'est pas de donner avec libéralité. Libéralité, c'est aussi donner générosité. On verra aussi la miséricorde, le don de la miséricorde, le don de la foi aussi. Le don de la foi, d'avoir une foi opérante, une foi vivante. Puis le discernement aussi. Le discernement, c'est un don, hein, comme le don prophétique. Ça se rapproche et nous verrons un exemple concret, hein, avec ce don de discernement. Et puis on verra les dons des signes. Hein, les dons, les miracles, les guérisons, les langues, mais on ne développera pas plus que ce que l'on a fait la dernière fois, qui me semblait était assez complet quand même. Hein, et puis on terminera ensemble quelques petits résumés, quelques petites réflexions, et puis votre petit cadeau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.